Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Yves pour Erdiwa. C'est l'heure de l'interview sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc Andiwa. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Alix Steinmetz. Bonjour.
Bonjour.
Et de Jordan Basileux. Bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour nous annoncer un programme concernant les places publiques du centre-ville, c'est-à-dire au niveau du Mazel et de Saint-Marcel. Pour ça, il va être organisé dans les mois à suivre divers processus concernant justement cette réhabilitation où vous préciserez, Jordan, ce que vous voulez y faire. Et d'ailleurs, c'est la question que je vous pose.
Eh ben, du coup, moi je suis Jordan Basileux, je travaille pour la communauté de communes et la ville de Die sur le programme Petite Ville de Demain. Donc c'est un programme de revitalisation de centre-ville, programme multithématique qui couvre les questions d'espace public, comme on va en parler là maintenant, les questions d'habitat, de commerce et de mobilité. Donc il y a différents intervenants et moi j'ai plus la casquette aujourd'hui espace public. Donc la municipalité de Die, durant la campagne municipale, a affiché la volonté de pouvoir travailler sur 2 espaces publics spécifiquement, à savoir le secteur Saint-Marcel, tout autour de la porte Saint-Marcel, et la place du Mazel, l'espace qui est à proximité des commerces du centre-ville. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on lance une démarche de requalification de ces espaces-là avec l'intervention d'une équipe de paysagistes et d'urbanistes architectes pour penser le devenir de cet espace-là. Et dans la volonté d'associer les habitants, on a pris le parti de prendre aussi également un bureau d'études chargé de la concertation et du travail avec les habitants. Donc la démarche, elle se veut un peu singulière dans la mesure où on a mis une ambition très forte sur la participation des habitants.
Alix Steinmetz, vous êtes une des représentations de ces intervenants avec les ateliers des concertants, donc.
Exactement. Moi, je suis architecte de formation. Aux ateliers des concertants, je travaille avec Élise Lemercier, qui elle est urbaniste. Et la vocation des ateliers des concertants, c'est donc d'aller chercher des contributions dans l'espace public pour pouvoir alimenter des projets, comme l'a décrit Jordan Basileux, de venir aller chercher donc des contributions pour alimenter ce projet. Dans notre équipe, on n'est pas seul, on travaille avec les paysagistes d'Urban Studio et sur toute la partie technique, un bureau de voirie qui s'appelle CEGIC. Donc notre équipe, elle s'est organisée donc sur une partie plus technique, sur la partie un peu classique de projet et de programmation, donc gérée par Urban Studio, et toute la partie concertation, qui est une grosse ambition de ce projet, qui va s'organiser sur différents temps qu'on a appelés de résidence, donc des moments où nous, on va venir habiter la commune, vivre la commune, son quotidien, et puis surtout ces temps d'observation, venir chercher des contributions et alimenter le projet.
Jordan Basileux, en introduction, vous indiquiez donc qu'il y a une requalification de ces places. Qu'est-ce qu'on peut déterminer par ce terme requalification ?
Requalification, ça veut dire repenser la fonction et l'usage des places. C'est-à-dire qu'on peut travailler à ce que la place se repositionne, que des éléments nouveaux viennent s'ajouter et qu'en même temps, on vienne y donner des nouveaux usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on peut questionner l'usage de la place du Mazel en tant qu'espace prioritaire de stationnement et imaginer tout autre chose. Par exemple, sur cette même place, on a un îlot désaffecté, l'îlot Barnier, qui est aujourd'hui dans un état de dégradation assez avancé. L'idée, c'est aussi de se questionner sur le devenir de cet espace-là. Est-ce qu'on le rase pour y faire un square? Est-ce qu'on le rénove pour y mettre des activités économiques? Toutes les questions sont sur la table. L'idée, justement, de faire appel aux contributions des habitants, c'est justement d'élargir le champ des contributions et d'imaginer le champ le plus large des possibilités. Et après, Et après, de pouvoir affiner tout ça en essayant d'arriver à un scénario final. Mais la requalification, c'est bien repenser l'espace urbain dans sa fonction et dans ses usages.
Vous indiquiez donc que c'était dans le programme, indiqué dans le programme de cette campagne électorale municipale. Ça répondait à une demande déjà à ce moment-là?
Je pense qu'il faut avoir, du coup, il faut avoir une vision un peu plus large de l'évolution du centre-ville de Die. Il y a deux projets majeurs qui ont été réalisés ces dernières années, ces 10 dernières années. Il y a la place de la République qui a été requalifiée. Voilà, et il y a le secteur Saint-Pierre qui a été requalifié également. Et en fait, il y avait dans les années 2010, il y a eu un plan général d'évolution du centre-ville qui avait été établi, et les municipalités successives ont poursuivi ce travail-là. Et aujourd'hui, on arrive à deux espaces qui ont un besoin certain, hein, chacun pourra le voir en y passant dessus, un besoin certain d'amélioration. Et du coup, on est dans la continuité du plan général qui avait été établi en 2010. Et là, voilà, on souhaite, parce que la sensibilité de la municipalité est celle-ci, avoir une ouverture plus large vers les habitants.
Est-ce à penser une continuité du mobilier, de l'aspect aussi de ce qui a été déjà constitué sur la place de la République ou au quartier Saint-Pierre?
Eh ben, y a une cohérence d'ensemble à trouver. Peut y avoir une approche plus singulière qui soit prise sur certains espaces, mais l'idée c'est que tout s'assemble bien. C'est sûr qu'on n'imaginera pas sur la porte Saint-Marcel quelque chose de complètement futuriste qui mettent pas en avant la valeur patrimoniale du site. Mais du coup, le bureau d'études, dans la partie plus classique de son travail, aura à nous apporter des éléments de lecture de l'existant de la ville de Die pour faire en sorte que son projet urbain et le projet qui sera travaillé avec les habitants puissent s'insérer dans le cadre existant. Voilà.
Et ça, c'est donc le travail d'Alix Steinmetz, d'aller au-devant des acteurs ou des habitants hein, de la ville pour sonder, diagnostiquer et puis voir produire des propositions.
Exactement. La première partie de notre travail, elle se passe en ce moment même sur une partie de mobilisation, c'est-à-dire d'aller rencontrer les différents acteurs clés, donc les commerçants, les personnes, les usagers de ces espaces-là, de ces deux secteurs, commencer à prendre contact, les rencontrer, pour pouvoir envisager un temps fort de notre résidence, qu'on a appelé notre résidence diagnostique, qui aura lieu donc du mercredi 13 décembre au samedi 16 décembre, pour venir questionner et aller au-devant via différents ateliers, au-devant de ces questionnements-là. Donc, sur le secteur du Mazel, quel est le bon équilibre à trouver entre stationnement et convivialité? Et puis, sur le secteur Saint-Marcel, comment est-ce qu'on vient parler d'un espace central, d'une place centrale, au cœur d'un quartier habité? Tout en parlant des circulations, de la mobilité, qui sont des sujets aussi liés. La question du patrimoine, comment est-ce qu'on vient révéler aussi le patrimoine sur ces différents secteurs. Voilà.
Au-delà de Jordan Basileux en charge de ces projets, il y a aussi Éric Sicard et François Tesseron, hein, élus municipaux, qui prêteront main forte aussi à cette constitution, à ces requalifications.
Oui, c'est ça. En fait, effectivement, il y a deux élus qui sont référents sur ce dossier-là. Éric Sicard au titre de l'urbanisme et du logement. Et François Stesseron au titre des mobilités et de sa délégation sur la voirie. On a souhaité qu'il y ait deux élus, effectivement, pour travailler sur ce sujet-là, peut-être parce qu'il y a deux places aussi, et aussi pour appuyer, pour appuyer la démarche dans le sens... dans un sens plus politique du terme.
Alix Steinmetz, vous arrivez avec un regard neuf sur cette ville. Est-ce que pour vous, c'est aussi un facteur de discernement de ce qu'il faudra peut-être amener ou transformer?
Oui, effectivement, on part à la rencontre du territoire. On aime beaucoup dire aux ateliers déconcertants que chaque nouveau projet est un voyage. Donc là, on est parti en voyage à Die, on part même en résidence. Donc c'est une chance d'être accueilli sur le territoire, de pouvoir vivre le territoire et puis d'apporter notre regard neuf parce qu'on vient questionner des fois par des questions un peu innocentes, des points qui peuvent être des sujets sensibles ou en tout cas cruciaux et révéler certaines choses qu'on ne voit pas quand on a un peu le nez dans le guidon, le nez dans son quotidien. Et donc d'apporter cette vision-là, un peu de recul, un peu de distance avec le quotidien, ça va faire aussi partie de notre rôle pendant les ateliers qu'on va mener, les différents ateliers. Peut-être que je peux parler de ces ateliers-là. Donc nous reviendrons sur la commune de Die du 13 au 16 décembre. Les temps forts annoncés sur ces jours-là à retenir, le jeudi 14 décembre à 18h30 en mairie, un temps fort d'inauguration de la démarche pour commencer à présenter, clarifier les enjeux, expliquer quelles sont nos attentes et quel va être notre rôle, présenter également notre équipe. Le paysagiste de notre équipe sera présent aussi à ce moment-là. Le vendredi 15 décembre, nous allons proposer deux temps pour venir arpenter ces deux secteurs. Sur le secteur Saint-Marcel à 11h et puis sur le secteur du Mazel à 15h pour venir avoir une lecture un peu paysagère de ces places, de ces sites. Et puis on se retrouvera le samedi 16 décembre de 9h à 13h sur le marché. Nous aurons un stand avec différents petits outils de récolte pour les contributions et essayer de continuer d'alimenter ce projet. C'est un processus que nous, on appelle itératif, c'est-à-dire d'aller-retour tout au long de notre résidence pour pouvoir alimenter la discussion et les réflexions avec les habitants et les usagers.
Les petites villes de demain, c'est une proposition qui permet aussi l'apport financier, certainement, de ces changements.
Oui. Effectivement, le programme Petite Ville de Demain, c'est une approche globale de réflexion sur le centre-ville, multithématique. Et la ville de Die a adhéré au dispositif en 2021 et a formalisé une convention cadre de suivi avec l'État en 2023, cette année. L'idée, c'est qu'on bénéficie aussi de crédits d'ingénierie pour financer des études. C'est-à-dire que là, par exemple, ces crédits, ils ont permis d'aller plus loin que ce qu'on aurait pu faire de base. Donc on s'est permis de prendre une mission plus conséquente sur la partie concertation. Par ailleurs, on travaille aussi sur d'autres sujets. Il y a les questions d'habitat, il y a les questions de commerce, il y a les questions de mobilité. Mais effectivement, le programme Petite Ville de Demain, c'est une porte d'entrée prioritaire pour des financements d'études ou des financements de projets. Derrière, à la fin de ce travail de programmation, on aura un plan d'action chiffré sur les différents secteurs avec un coût d'intervention global. Et la volonté de la mairie, c'est aussi d'arriver à un phasage du projet en différentes tranches pour un portage financier un peu plus facile. C'est-à-dire qu'annuellement, on pourra se dire on réalise trois parties du projet sur le Mazel et deux parties du projet sur Saint-Marcel. Ce qui permettrait d'étaler budgétairement les dépenses sur plusieurs exercices et d'alléger la commune. Voilà. Après, on peut aussi faire le choix, et ça c'est aussi une discussion qu'on pourra avoir avec les habitants, faire le choix d'une intervention globale d'un seul coup, d'un seul tenant. Mais c'est vraiment un choix de méthode qui pourra être discuté tout au long de la démarche, et il faut attendre pour l'instant que le contenu soit là pour pouvoir en discuter.
Je peux peut-être revenir sur le contenu. L'objectif qui a été posé aussi et l'ambition sur ce projet est de dessiner un projet qui soit à l'échelle de la commune, donc pour pouvoir être porté financièrement et être réalisable et pas rester uniquement dans l'imaginaire, le rêver. Et pour arriver à ancrer ce projet, s'appuyer sur les contributions des experts du territoire qui sont les habitants et les usagers de ces places.
Il y a un dernier point qu'il faut souligner. Alors, pour l'instant, comme je disais, le contenu et les contributions et le travail n'est pas encore réalisé, mais on a ouvert la possibilité à avoir une démarche qu'on appelle d'usage provisoire ou d'usage transitoire, c'est-à-dire qu'au regard de ce qui sortira sur certains espaces, on peut imaginer une forme de préfiguration d'un aménagement qui puisse durer soit le temps de la transition dans l'attente que les travaux démarrent, soit le temps qu'il soit quelque chose de préfiguratif. C'est-à-dire qui s'installe et qui perdurera aussi dans le temps. Voilà, donc on a ouvert cette possibilité-là. Les ateliers déconcertants et Urban Studios seront missionnés là-dessus. C'est prévu dans la mission. Il faut juste, pour l'instant, en relever confirmer le besoin.
Je voulais rajouter que l'avantage de cette mission, d'avoir cette opportunité de venir préfigurer, c'est aussi une chance de venir affiner le programme. Des fois, on vient rêver, discuter de choses, et puis quand on vient les tester, se donner la possibilité du test, ça permet d'affiner, de revenir sur certains détails et d'avoir du coup un projet pérenne derrière, celui qui va rester au plus proche des besoins du projet.
Vous disiez, Jordan, en début d'émission, que l'îlot Barnier, c'est le grand questionnement à savoir dans sa destinée, soit d'être réaménagé ou alors d'être tout simplement supprimé. Est-ce qu'il y a, dans toute cette place du Mazel, hein, je me concentre sur elle, est-ce qu'il y a un désir déjà existant ou prédominant sur sa destination ?
Nous, on ne ferme pas de porte à ce stade-là. Enfin, on sait qu'on a un tènement qui est assez conséquent. En termes d'emprise foncière, on est quasiment sur un tiers de la place qui pourrait être libérée. Après, je pense qu'il faut aussi se mettre dans une logique d'opportunité, une logique de projet. Si, par exemple, au cours de la démarche, il y a un collectif qui se monte pour dire « Nous, on a besoin d'un espace et on souhaite s'avancer sur un projet de réhabilitation », on pourrait tout à fait discuter de cette solution-là. Et après, on peut aussi avoir le pendant inverse, qui est un désir très fort des habitants d'avoir un peu plus d'espace vert à l'intérieur de la ville et aller directement vers une démolition. Et c'est là où c'est intéressant, je relis avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la préfiguration ou sur l'usage provisoire. On pourrait très bien imaginer que dans l'attente du projet final, on ait soit une occupation temporaire de l'espace, du bâtiment, soit une démolition avec la création d'un jardin en lieu et place. Voilà, j'émets des hypothèses, mais en tout cas, ça pourra être débattu à ce moment-là. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les partager.
Cet îlot Barnier, c'est une préoccupation hein, de la ville sur sa destination ou son avenir. Est-ce qu'il y a eu déjà des études de faisabilité de sa réhabilitation ?
Alors cet îlot du coup il a été acquis par achats successifs de la collectivité. Aujourd'hui elle en maîtrise la totalité, donc elle maîtrise la destination finale. Nous on l'avait simplement réinterrogé sous l'angle habitat, est-ce que ça peut être intéressant de recréer de l'habitat à cet endroit-là, mais c'est une option qu'on a mis parmi d'autres. Et on a des coûts de réhabilitation aujourd'hui qui nous ont été donnés, qui sont assez conséquents et qu'il faut réinterroger par rapport à ce que souhaitent réellement les gens. Donc on ouvrira plus largement que ce qu'on a déjà engagé en termes de réflexion.
Le stationnement, là, ce genre justement de place où se trouvent des zones de stationnement, qu'est-il prévu vis-à-vis de ces stationnements existants aujourd'hui ?
Alors, du coup, il faut mentionner qu'on est aujourd'hui dans le cadre d'un schéma des mobilités actives approuvé par les élus de la commune et qui décline tout un tas d'actions. Le fait est qu'aujourd'hui, on est bien conscient que sur le cas du Mazel, par exemple, c'est un parking de proximité qui dessert principalement les commerçants. Donc il faudra, dans les discussions qui auront lieu, prendre en compte cette dimension de parking de proximité. Les élus de la municipalité ont toujours souhaité maintenir cette poche de stationnement en centre-ville et elle devra être questionnée au regard d'une vision un peu plus qualitative des habitants avec des espaces récréatifs ou des espaces verts.
La question du végétal aussi est à aborder sur ces deux places. Comment est-ce qu'on vient rapporter de la végétation ?
Notamment avec ces températures caniculaires de l'été, peut-être envisager en quelque sorte des poumons verts au sein de la ville ?
Oui, pourquoi pas. C'est une des options en tout cas qui est à questionner parce que la ville de Die est une commune extrêmement minérale. qui fait aussi son charme et son identité. Donc, on vient aussi questionner quel équilibre, comment est-ce qu'on vient rajouter du végétal, comment est-ce qu'on n'est pas dans le végétal pittoresque, mais comment est-ce qu'on vient aussi être dans le végétal qui vient servir l'environnement, répondre aussi aux enjeux de réchauffement climatique et qu'on vit tous dans nos quotidiens aujourd'hui. Ça fait partie des choses qu'on va venir questionner et qui seront intégrées au projet. Voilà. Urban Studio a déjà accompagné de plusieurs projets dans ce sens-là et ils ont une réflexion fine sur ce sujet-là, de la plantation, quelles essences, pourquoi, à quel endroit, un peu le bon arbre au bon endroit.
On va visiter un peu ces entreprises, enfin, comment peut-on parler d'agences,
d'ateliers,
qui sont retenus par la ville hein, pour réaménager ces deux places. Urban Studio, donc une agence d'urbanisme, d'architecture et de paysage de Lyon. Ils ont une bonne expérience de cette pratique.
Oui, une vingtaine d'années d'expérience pour Urban Studio sur ces sujets-là, avec effectivement un regard croisé sur la question d'architecture, de paysage et l'espace urbain, qui sont des sujets qui sont souvent entremêlés. Et c'est une force aussi de cette agence, d'avoir ce regard multidimensionnel sur l'espace public, parce qu'on peut vraiment l'intégrer dans toutes ses dimensions. Et puis, qui travaille de manière opérationnelle, en faisant du suivi de chantier, ou sur des missions de programmation, donc en amont, comme ce qui se passe aujourd'hui à Die.
Je ne connais pas le travail effectué par Urban Studio, mais est-ce que c'est dans leur activité justement d'aller peut-être au-devant d'entreprises qui sont prêtes à répondre sur leurs sollicitations, par exemple sur la voirie ou sur le mobilier urbain? Est-ce qu'il y a des optiques sur des entreprises peut-être plus locales que des entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine?
Pour répondre à la question, on est dans une phase où on n'est pas dans une phase de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'on est dans une phase où on pense le projet et on n'est pas encore dans une phase de réalisation. Et effectivement, quand on est dans les phases de réalisation, on a des marchés publics qui sont lancés et on sollicite des entreprises. C'est là où le lien se fait plus spécifiquement. Là, la démarche, elle a pour but d'écrire les grandes lignes du projet, de le rendre le plus opérationnel pour prendre des décisions et après de lancer les démarches pour faire en sorte d'avoir le dessin définitif et le chiffrage définitif des projets.
Quand on parle de projets urbains, aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle la phase programmatique, c'est-à-dire le programme jusqu'où on va, vers où on veut aller, en tracer les grandes lignes. Et notre mission, elle s'arrête là. On va aller jusqu'à la phase de test pour être bien sûr de notre programme, être le plus précis possible. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la phase de projet d'exécution, projet pro, qui sont des mots dans notre jargon, qui sont la phase où on va enclencher les travaux et on va faire du suivi de chantier, qui est un autre type de mission. Et le but aujourd'hui pour nous, ça va être d'être le plus clair possible dans cette phase de programmation pour pouvoir tenir les ambitions dans un second temps en phase de chantier. Les recommandations en termes de mobilier, pour répondre à la question, elles peuvent se faire sur des lignes de mobilier, mais on est au stade de la recommandation sur notre mission. On n'est pas sur une phase encore concrète, on n'est pas en train de choisir dans le catalogue ce qui va se passer ou de choisir l'entreprise qui va pouvoir le réaliser en local. Ça, c'est des dynamiques qui peuvent être lancées et accompagnées dans un second temps. En tout cas, qui peuvent aussi être fléchées à cette étape par notre équipe.
On peut présenter aussi les autres agences, donc les ateliers déconcertants. Pourquoi ce nom d'ailleurs ?
C'est toujours un nom qui est un peu déconcertant. il fait le jeu de mots d'aller au-devant de la concertation et puis aussi d'avoir des modes de concertation qui sont souvent un peu déconcertants, surprenants. On essaie toujours d'être le plus ambitieux possible dans nos démarches. Et on aime aussi ce terme d'atelier parce qu'on est toujours dans le faire, dans le sensible, parce que la parole des habitants, ce n'est pas une vérité vraie, c'est une vérité parmi d'autres à prendre en compte pour être au plus proche des besoins d'un territoire.
Voilà. D'ailleurs, sur votre site internet, il y a beaucoup d'exemples hein, qui sont mentionnés. Ça relaie une belle expérience dans ce domaine.
Oui, les ateliers déconcertants ont déjà 5 ans et ils ont été montés, imaginés, créés suite au constat que aujourd'hui, dans la fabrique de la ville, on était dans des schémas, dans des méthodologies qui déroulaient et plutôt l'objectif pour nous est de venir re-questionner cette démarche de la fabrique de la ville en intégrant et en étant au plus proche des besoins des habitants qui sont eux les usagers de ces espaces concrets dans la ville et qu'on parcourt.
Et puis il y a donc Cégic Ingénierie, un bureau d'études techniques toujours à Lyon. Son rôle, lui, consistera en quoi précisément ?
L'association d'un bureau d'ingénierie dans une phase de programmation a l'avantage de venir étudier tout en amont du projet toutes les questions techniques qui se passent sur la Terre, les questions du luminaire, etc. Mais tout ce qui se passe dessous, surtout la question des réseaux, la question de la voirie, et d'avoir du coup des chiffrages techniques qui soient les plus réalistes possibles pour pas avoir des mauvaises surprises quand on passe dans la phase après la programmation dont on parlait, qui est celle des travaux. Et ça nous permet d'être au plus proche de la réalité et du concret du projet en amont, tout de suite.
Ça, c'est une question d'un habitant hein, que je suis. Ces structures qui sont sollicitées pour remettre en conformité ou requalifier une place, c'est un processus qui existe depuis de nombreuses années au sein de toutes les collectivités, j'imagine. C'est quand même, c'est une démarche qui est plutôt récente dans notre société, où ça fait quand même quelques décennies.
Je pense que ça a toujours été les points de passage obligés, effectivement. Hein, les financeurs et les communes ont besoin d'un accompagnement pour savoir et définir ce qu'elles veulent faire. Il faut toujours remettre dans le contexte que les élus ne sont que des habitants. Et qu'ils n'ont pas de valeur, de connaissances techniques approfondies sur les sujets, et qu'ils ont besoin de s'entourer pour pouvoir définir ce qu'ils veulent faire sur les territoires, sur leur commune. Et du coup, ces phases-là de programmation, puis ensuite ces phases de réalisation, sont toujours accompagnées par des bureaux d'études spécialisés. Ce qui est plus nouveau, en revanche, et qui a peut-être une vingtaine d'années et qui prend de plus en plus d'importance, c'est le fait d'inclure les habitants dans les démarches en ayant quelque chose de beaucoup plus ouvert. Donc il y a des processus de concertation qui ont été rendus obligatoires par la loi, mais après, beaucoup de choses sont laissées à la discrétion des élus et à leur sensibilité. Voilà. Donc ce qu'on peut souligner ici, c'est qu'on va plus loin que ce qui nous est réglementairement demandé.
Et même au-delà de ce qui est réglementairement demandé, la municipalité va au-delà de d'autres démarches qui sont déjà plus ambitieuses que la réglementation. Mais là, on fait quand même un pas supplémentaire, vraiment le fait d'avoir autant de temps de présence, autant d'aller-retour. On parle de mobilisation. Ensuite, on va parler de diagnostic, on va parler de phase de scénario. On va revoir ces scénarios, on ira vers des phases de test probablement. Et on aura même un temps aussi d'évaluation. Donc le fait d'avoir toutes ces étapes-là au sein du projet, c'est vraiment une richesse. Des fois, on se contente de quelques phases scénarios ou d'informations de communication. Là, il y a vraiment une démarche de transparence, d'aller-retour avec les habitants pour être au plus proche de ses besoins, pour revenir encore dessus.
Vous mentionnez un peu dans la présentation cet aspect aussi clivant hein, de ce projet. Là, on pense au stationnement. Qu'en restera-t-il ? Quelle est l'alternative ? Donc ça aussi, c'est votre travail aussi d'amener ce débat et de pouvoir trouver un compromis en quelque sorte.
Oui, on est bien conscient que les communes comme la commune de Die se sont pas construites avec des dimensions de voirie destinées à la voiture. La voiture est venue s'inviter dans ce tissu urbain très dense, très complexe. Et aujourd'hui, il y a eu une époque du tout voiture et aujourd'hui, on est dans une démarche qui est un petit peu inverse. Comment est-ce qu'on vient organiser la voiture ? Parce qu'on est bien conscient qu'on ne peut pas s'en passer, la supprimer complètement. Mais on vient plus questionner l'équilibre. Et aujourd'hui, quel est l'équilibre avec la présence de la voiture dans le centre-ville, pour garder une activité économique qui fait aussi vie et sens dans une commune comme celle de Die. Et d'un autre côté, le confort du piéton, comment est-ce qu'on vient arpenter la ville, comment est-ce qu'on vient vivre la ville à l'échelle du piéton, sachant qu'aussi que chaque automobiliste devient un moment piéton quand il rentre dans un magasin. Donc on vient questionner toutes ces choses-là. Effectivement, la question de l'équilibre, elle ne se trouve pas dans le tout noir ou le tout blanc, le tout voiture ou le sans voiture, mais plutôt dans le dialogue pour être au plus juste et au plus proche des besoins.
Et puis, pour finir, il y aura ces trois autres phases, celle de la co-construction à suivre, ensuite la phase de restitution et la phase d'usage provisoire en option, comme vous l'aviez déjà indiqué tout au long de l'étude. Vous indiquez donc que les travaux seront rendus publics par le biais de supports, donc soit sur le site de la mairie ou sur des campagnes d'affichage notamment ou d'information.
Exactement. Nous allons mettre en place deux espaces d'affichage, un sur chaque secteur. Un qui sera sur l'île aux Barniers et un qui sera proche de la porte Saint-Marcel, pour essayer de rendre visible et d'afficher toutes les actualités du projet, les rendez-vous à venir et les étapes où on est, ce calendrier, afin d'être le plus clair, le plus lisible au niveau des enjeux qui sont traités au fur et à mesure.
Eh bien, Jordan Basileux et Alix Steinmetz, je vous remercie tous deux d'être venus sur l'Air du Bois pour nous parler donc de ces programmations de requalification des places publiques du centre-ville de Die. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.